Historama, l'histoire d'un jour. Aujourd'hui, le 10 juillet 1781, les Français débarquent en Amérique. Le 4 juillet 1776, l'indépendance des États-Unis d'Amérique est proclamée 5 ans avant qu'elle ne soit effectivement acquise, dans une large mesure grâce à l'intervention française impulsée par le marquis de Lafayette, âgé de seulement 20 ans. La guerre d'indépendance contre l'Angleterre débute par la bataille de Bunker Hill à Boston le 17 juin 1775. Elle se solde par la défaite des colons américains. À l'automne 1777, le point culminant du conflit est atteint à Saratoga. Les forces américaines, placées sous le commandement du général Gates, affrontent une armée anglo-allemande appuyée par des groupes de combat indiens sous les ordres du général britannique Burgoyne. Au terme du combat, les Anglais battent en retraite. Le Congrès américain décide alors d'exploiter les rivalités franco-britanniques en dépêchant auprès de Louis XVI Benjamin Franklin. Sa mission est de plaider la cause des Américains en sollicitant l'aide française sous forme d'armes et d'argent et éventuellement d'un appui militaire. La réponse du roi de France est rapide et positive. Le 6 février 1778, un traité d'alliance défensive est signé entre les deux pays. La France reconnaît les États-Unis comme un État indépendant. L'essentiel du traité franco-américain se résume en 3 points. L'alliance durera tant que l'indépendance de l'Amérique ne sera pas acquise et reconnue par l'Angleterre. Il n'y aura pas de paix séparée avec l'Angleterre, sauf d'un commun accord entre la France et les États-Unis. Enfin, la France renonce à toute revendication en Amérique, à l'exception de la Martinique. Par l'intermédiaire de Beaumarchais, la France livre des armes aux combattants américains. Elle fait aussi bâtir dans ses chantiers navals des vaisseaux de guerre destinés aux équipages français placés sous commandement américain. L'entrée de la France dans la guerre d'indépendance modifie le rapport des forces sur l'Atlantique. Le 10 juillet 1781, une flotte française débarque à Newport, 6000 hommes de troupes, sous les ordres du général Rochambeau, munis de consignes précises de Louis XVI. Il doit se joindre à George Washington, à Valley Forge, puis à Lafayette, qui l'attend à Richmond, au sud de Yorktown. Rassemblés dans leur bastion de New York, les Anglais préparent leur plan de bataille sous la direction du général Clinton. Trompés par un leurre imaginé par George Washington, ils rappellent une partie de son armée de Virginie pour la défense de New York. À ce même moment, 2000 Américains et 5000 Français rassemblés par Lafayette sous le commandement de Rochambeau quittent Philadelphie pour la péninsule de Yorktown. Une flotte française de 29 vaisseaux de ligne en provenance de Rhode Island débarque sur la péninsule un renfort de 4000 hommes. Le général Cornwallis, commandant anglais des lieux, retire ses troupes de Yorktown encerclées. L'armée franco-américaine, placée sous le commandement de George Washington, dispose d'une remarquable artillerie de siège et d'une supériorité en effectif, 15 000 hommes contre 7 000. Du 10 au 15 février 1781, l'artillerie franco-américaine martèle Yorktown. La flotte française, munie de 1 700 canons, sous l'autorité de l'amiral De Grasse, qui a établi un blocus à l'embouchure de la York River sur la côte de Virginie, empêche toute venue de renfort en provenance de l'Angleterre. Le 19 octobre 1781, Cornwallis se rend. Feignant un malaise, il refuse d'assister à la cérémonie de reddition et désigne son adjoint, le général O'Hara, pour remplir cette mission. Ce dernier, en grande tenue, s'avance lentement vers Rochambeau pour lui remettre son épée. Le Français, hochant la tête en signe de refus, fait un signe de la main en direction de George Washington et dit « C'est lui, le commandant en chef ». En Angleterre, la situation est catastrophique. Il faut dissuader le roi George III d'abdiquer. En France, Louis XVI fait pavoiser Paris pour célébrer la victoire et le sauvetage de l'Amérique par les Français. Nous allons marquer une pause musicale dans cette émission Historama avant de retrouver la chronique littéraire Un jour, trois livres. Nous allons écouter William Scheller qui nous accompagne en chanson aujourd'hui avec un titre de 1983, extrait de l'album Simplement les filles de l'aurore.
Les filles de l'aurore, je peux encore les retrouver. Elles ont autour du corps de l'amour et de l'or que l'on peut jouer au dé. Elles ont au fond des yeux des rêves que l'on ignore. Quand vous dormez encore, quand l'aube les voit passer par deux, et moi je viens bien après l'aura, quand le soleil monte à Saint-Jean, voudrais leur dire que je t'aime encore, toi qui t'en vas tout le temps. Les garçons de l'aurore glissent leur corps dans des jeans usés. Ils passent des doigts nerveux dans leurs cheveux et s'en vont au dehors.
Écoutez Historama, l'histoire d'un jour, la chronique littéraire, un jour, trois livres consacrée aujourd'hui à la remarquable collection Écoutez-lire proposée par les éditions Gallimard. Elle consiste en une œuvre littéraire lue par un comédien. Cela procure un autre relief à la littérature et trois titres ont retenu plus particulièrement mon attention. L'actrice Lara Suyeux nous fait découvrir Monsieur Proust, texte de Céleste Albaret, la gouvernante et confidente de Marcel Proust, qui livre à 82 ans, un demi-siècle après la mort du grand romancier, nous sommes en 1973, ses souvenirs recueillis par Georges Belmont. C'est un témoignage unique dont la valeur historique est précieuse. Stéphane Varupen, sociétaire de la Comédie-Française, lit « L'homme révolté », essai essentiel d'Albert Camus, publié en 1951, qui suscita alors bien des débats et des polémiques. Enfin, Pierre-François Garrel prête sa voix au romancier américain Philip Roth en nous promenant de page en page avec L'Attache, roman publié en l'an 2000. L'histoire met en scène un professeur de lettres classiques accusé à la veille de la retraite d'avoir proféré des propos racistes. Il démissionne plutôt que de livrer le secret qui serait susceptible de l'innocenter. Le roman est traduit de l'américain par José Camoun. Cette collection Écoutez-lire est une belle façon de découvrir autrement le plaisir de la littérature, que vous soyez en voiture ou peut-être durant une déambulation pédestre. Vous pouvez ainsi profiter de ces remarquables lectures. En tout cas, je vous la recommande chaudement. Nous allons nous séparer en chanson après avoir remercié Lucas qui a réalisé cette émission. C'est toujours William Scheller et un titre de 1977, Symphomane, titre éponyme de l'album publié en cette année 1977. Je vous retrouverai avec plaisir la semaine prochaine pour de nouvelles aventures historiques.
semelle de gomme, il tire un jean étroit du bas. Dans un blouson rouge pomme, de contrebasse au bout des bras. Il shoot dans des boîtes bémol, il se fout du style, il n'a pas bien suivi l'école. Mais il plane comme un jumbo entre les murs du sol. C'est comme un labyrinthe autour de sa maison. On le trouve un peu bizarre, mais Saint-Format est né d'un rêve, oubliez-la. Qui pétille à mon oreille, tout comme les bulles d'un verre ou deux, Mozart soda. Au Jean-Sébastien Snack, on le rencontre quelquefois. D'un piano chips et d'un sorbet d'habanera. Il roule en bebop loula, il se fout du style, il n'était pas très doué pour ça. Mais il plane comme un jumbo entre les murs du sol. C'est comme un labyrinthe autour de sa maison. On le trouve un peu bizarre, mais Saint-Foman est né d'un rêve, oubliez-le. Qui pétille à mon oreille, tout comme les bulles d'un verre de Mozart soda. On le trouve un peu bizarre, mais Saint-Foman est né d'un rêve, oubliez-la. Qui pétille à mon oreille, tout comme les bulles d'un verre de Mozart soda. On le trouve un peu bizarre, mais Saint-Foman est né d'un rêve, oubliez-la. Thank you.